This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio 10.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Algérie et dans le Montana, en hommage à l'écrivain Jim Harrison. Ailleurs dans le monde, le journal de l'International de Michael Thébault. À 18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier qui reviendra sur l'attentat de Lahore hier au Pakistan. Mais tout de suite, direction USA.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Pour de passionnantes primaires américaines. Côté démocrate, Hillary Clinton est toujours en tête, même si Bernie Sanders et surtout ses idées de gauche au sens quasi-européen du terme restent dans la course. Côté républicain, le parti espère désormais que Ted Cruz, ultra-conservateur, pourra faire barrage au typhon Trump qui continue à tout emporter sur son passage. Dans le New York Times hier, édito en forme de mea culpa sur le rôle des journalistes dans le phénomène Trump, considéré à tort comme un bouffon au début de sa campagne, mais une telle bête de scène, de télé, de clics et de buzz est désormais impossible à arrêter par le journalisme classique, disait le New York Times. Bonsoir Denis Lacorne.
Bonsoir.
Grand spécialiste des États-Unis, série Sciences Po. Avec nous également Frédéric Carbone. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter à Washington. Dans ce même studio, Denis Lacorne, il y a quelques mois, nous évoquions déjà Donald Trump et cherchions des comparaisons historiques pour appréhender un phénomène dont beaucoup pensaient alors qu'il se dégonflerait. Ça n'a pas été le cas. Ça vous étonne ?
J'étais le premier surpris. Moi aussi, j'ai cru que c'était un bouffon. Je me suis beaucoup amusé aux États-Unis parce que j'ai passé 3 mois en Californie à voir les débats présidentiels et à rire de ce que disait Trump. C'était un combat de gladiateurs. C'était très amusant et on pensait tous, que, y compris de très bons experts, que le bouffon allait, la baudruche allait éclater. Puis non, pas du tout. Il a résisté. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ce qu'il représente. C'est-à-dire que c'est une émanation de la télé-réalité.
Et donc, c'est une bête médiatique.
C'est une bête médiatique et on n'a pas suffisamment pensé à combien ça avait d'impact et combien, dans le fond, les gens, beaucoup d'Américains passent 4-6 heures à la télévision, ils ne regardent que ça. Et dans la télé-réalité, on mélange les faits et la fiction, on parle avec un vocabulaire d'un enfant de 8 ans, c'est ce qu'on dit à propos de Trump, on fait des éclats, il y a des confidences de coulisses plus ou moins sordide, ça fait partie du jeu. On dit soi-disant ce qu'on pense. Il y a le jeu de la sincérité, c'est quelque chose de très... La pseudo-sincérité, c'est tout à fait clé. Je dis ce que j'ai sur le cœur, et même si ça vous fait mal, tant pis. Donc c'est ça. Et on n'a pas suffisamment regardé de près cette forme très importante de la culture populaire américaine.
Et on voit effectivement le New York Times faire un nouveau mea culpa. Non. C'est le énième mea culpa, oui. Disant il a réussi à saturer tous les médias, quels qu'ils oui. soient. Puisque c'est pareil sur Twitter, c'est pareil sur les réseaux oui. sociaux. Dès qu'il apparaît, oui. tout s'affole.
Oui, tout s'affole. Et puis il fait aussi du harcèlement sexuel et moral sur Twitter constamment. Il a cette façon d'insulter ses rivaux qui est tout à fait étonnante, et que Twitter permet. Il dit d'ailleurs, moi je suis couché au lit, je m'embête, je fais un tweet et j'essaye de démolir mon adversaire.
Il y a quelque chose d'inédit là, Denis Lacorne.
Oui, bon, il y a toujours eu des anti-establishment dans le Parti démocrate, dans le Parti républicain.
Anti-establishment.
C'est-à-dire des gens comme Goldwater, des gens... Il y a toujours eu de l'opposition farouche à d'establishment, c'est-à-dire les républicains classiques, ça c'est pas neuf, mais lui il dépasse toutes les mesures, puisque certains même se demandent s'il est vraiment un républicain. Il récupère certains thèmes qui sont propres au Parti démocrate, par exemple. Il dénonce dans des termes très très durs la politique irakienne de Bush fils. Donc c'est pas un républicain classique. Et il s'adresse aux petits blancs, aux white trash, à la classe ouvrière blanche qu'on trouve dans le Rust Belt, dans la ceinture de la rouille, qui sont des gens... On peut faire d'ailleurs une géographie du Trumpisme. La géographie du Trumpisme, c'est oubliez les grandes villes, c'est les petites villes, c'est les petites banlieues ouvrières, pas les banlieues riches qui peuvent exister à Washington ou en Californie ou en Virginie, et des gens qui sont très peu éduqués et qui sont les laissés pour compte et de la reprise, qui est une vraie reprise économique aux États-Unis, mais eux n'en bénéficient pas, et les laissés pour compte de la mondialisation. Et c'est ça, sa clientèle, qui est fondée, et tout est fondé sur le ressentiment.
Frédéric Carbone, vous l'avez suivi, hein, la bête médiatique, le typhon médiatique Trump.
Oui, et c'est ce qui est spectaculaire, vous parliez de ces médias qui font leur autocritique aujourd'hui, le New York Times qui effectivement dit on ne peut pas lutter contre lui avec les méthodes classiques d'enquête, parce qu'il y a, eu des enquêtes, des investigations sur Trump, ce qu'il a fait, sur ce qu'il dit, et souvent n'importe quoi. Et il y a d'autres médias qui font leur autocritique sur on lui a laissé table ouverte, c'est-à-dire que Trump, il est passé 20-30 fois plus que d'autres candidats républicains à cette élection présidentielle dans les grands médias américains. Vous avez une télévision comme CNN qui a diffusé il y a 15 jours à peu près, pendant 3/4 d'heure, le discours de Trump après une primaire où Trump faisait de la publicité pour tous ses produits. Vous vous en souvenez peut-être, cette image où il montre le steak Trump, où il parle de la compagnie aérienne Trump. Bon, pendant 3/4 d'heure, CNN dit aujourd'hui, je ferai peut-être plus ça. Il est passé dans les émissions du dimanche matin, qui est un rituel ici, où les gens sont face à face avec les journalistes, ils se déplacent dans les studios où il y a une caméra chez eux, mais on les montre. Là, il est passé au téléphone, il appelait et il passait 5 minutes sur toutes sur tous ces médias-là. Ils disent aussi, on fera plus ça. Mais Trump, ça rapporte de l'audience. Et vous avez eu ce petit extrait d'un grand patron d'une chaîne de télévision américaine qui dit à ses journalistes, il espérait que ça soit pas entendu, ben Trump, il nous double l'audience. C'est ça qui se passe depuis des mois ici.
L'analyse commune, vous en faisiez état, Denis Lacorne, c'est que Trump parle à l'Amérique blanche, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il use du racisme latent au pays du politiquement correct?
Oui, d'abord, il dénonce le politiquement correct, mais comme le fait un démagogue et un xénophobe. Les thèmes principaux de sa campagne, c'est quand même la xénophobie. Je vais chasser 11 millions de sans-papiers. Ce qui est complètement fou, il faut être cinglé pour dire ça, parce qu'on peut, techniquement, c'est pas possible. Il n'y a pas 12 000 juges qui vont, et 300 000 policiers qui vont arrêter 12 millions de personnes. C'est irréalisable. Il va construire ce mur que, soi-disant, le Mexique va financer. Tout ça est pure folie, mais ça passe, c'est l'effet Teflon, c'est-à-dire que on a beau le critiquer, surtout d'ailleurs sur une université qui était une abusive, l'université Trump, qui faisait payer des élèves qui ne faisaient rien, qui rencontraient une personne dans le couloir d'un hôtel et qu'on prétendait transformer en agent immobilier. Il a engagé des sans-papiers d'origine polonaise pour une construction à New York, etc., etc. Donc il a fait 4 fois faillite, donc le modèle économique de Trump n'est pas quelque chose qui marche si bien que ça.
Mais ça n'a pas de prise sur la réalité. Sur la télé-réalité,
parce que dans la télé-réalité, on ne lit pas les nouvelles, et le New York Times, on ne le lit plus, le Washington Post, on ne le lit plus. Les chaînes classiques comme CBS, ABC, on ne les regarde plus. On regarde des chaînes ou des câbles, mais qui sont très très idéologiques, comme Fox News. Donc l'information classique n'a plus de prise. Et le danger de l'Internet, c'est que finalement on surfe, on regarde les titres des journaux, mais on ne lit plus les articles. Ou on lit de temps en temps un article, puis on va surfer et il y aura des tas de choses amusantes qui vont apparaître et on sera distrait par le non-essentiel.
Et il est l'homme de ça, lui.
Il est l'homme de ça, et puis c'est pas par hasard qu'il double ou triple l'audience à la télévision, c'est qu'il va dire, comme il dit tout et n'importe quoi, il va dire quelque chose qui va faire scandale, et du coup, ça va repasser en boucle. Il serait raisonnable et concentré, il ne ferait pas les gros titres et ses propos ne passeraient pas en boucle.
Alors, quelles conséquences, Denis Lacorne, pour le Parti républicain en tant que tel?
Le choix est assez rude. Le choix, c'est où on facilite l'élection de Trump et ça détruit le Parti républicain, où on choisit de représenter vraiment le pays et on essaye de couler par tous les moyens possibles, ceux qui sont encore possibles, Trump, quitte à le remplacer par un candidat vraiment très conservateur, mais qui a aucune chance d'être élu, qui serait peut-être Cruz.
Ça, on va voir. On va voir son profil idéologique et même psychologique. Frédéric, vous souhaitiez intervenir ?
Le Parti républicain, il faut imaginer l'état de déliquescence, l'état de sidération dans lequel il est en ce moment. Il est comme tous les observateurs. Chaque candidat attendait en gros que Trump décroche pour récupérer ses électeurs. C'est pour ça que chaque candidat a attendu avant de s'opposer fortement à Trump. Il y a eu beaucoup de retard. Et pour illustrer l'état dans lequel est le Parti républicain et la tentative désespérée un peu maintenant de lutter contre Trump, d'empêcher qu'il ne soit le candidat désigné, je vous propose d'écouter Paul Ryan, qui est un homme important, c'est le numéro un des républicains au Congrès américain, à la Chambre des représentants. Il sera un homme important de la convention. Et voici ce qu'il dit pour essayer de changer le cours de la campagne, pour essayer d'avoir un autre ton pour que ce ne soit pas Trump avant tout. Écoutez ce qu'il dit.
Au lieu de jouer sur vos angoisses, nous pouvons en appeler à vos aspirations. Au lieu de jouer sur les identités politiques, nous contre vous, nous pouvons unir les gens autour d'idées et de principes. Nous ne sommes pas là pour agiter des peurs. Nous sommes là pour vous guider. Nous n'avons pas seulement à nous opposer. Nous devons proposer une alternative claire. Ainsi, nous ne gagnerons pas seulement votre soutien, nous gagnerons aussi votre enthousiasme. Nous gagnerons votre cœur et votre esprit, et nous gagnerons un mandat pour faire ce qui est nécessaire pour protéger l'Amérique.
Voilà ce qui ressemble à un vœu de plus en plus pieux. La question, c'est est-ce que ces mots-là, est-ce que ces appels-là ont encore du poids aujourd'hui ?
Denis Lacorne, qu'en pensez-vous ?
Disons, le scénario de rêve qui n'est pas totalement probable, mais c'est pas, on peut pas l'exclure, c'est que Trump n'arrive pas à obtenir le seuil fatidique des 1327 voix, donc la moitié des délégués plus un pour la convention républicaine. Et s'il a pas cette moitié de délégués, qu'est-ce qui se passe? On a une convention négociée, et dans la convention négociée, il y a un premier tour de vote, là il n'a pas la majorité, donc il y a un deuxième tour, et la chose importante, c'est que lors de ce deuxième tour, les délégués qui ont été choisis, c'est assez tard d'ailleurs, ils sont choisis en mai, votent pour qui ils veulent.
Donc le Parti républicain parie sur un scénario, d'après vous,
voilà,
de ce type.
Peut-être, oui. Ce serait d'une certaine façon, ce serait la meilleure façon d'éliminer ce Trump qui est ingérable.
Mais Trump a déjà dit que ce serait une émeute, Denis
Lacorne. Oui, mais les émeutes, on connaît. Enfin, les démocrates ont eu des émeutes en 68, ça n'a pas empêché l'élection de Humphrey. Et là, la police de Chicago était particulièrement violente. On peut penser qu'à Cleveland, ce ne serait pas comme la police de Chicago.
Mais il dit quelque chose de très vrai, Donald Trump, en même temps, qu'on ne vole pas la victoire à ceux qui ont voté pour moi.
Non,
on ne leur vole pas mon vote.
Oui, mais d'autres.
Leur vote, pardon.
Oui, vous avez raison. Mais on va lui répondre quoi? Que d'abord, si on additionne les voix des adversaires de Trump, qui étaient nombreux dans les primaires, il a une minorité de voix. Si on additionne Kasich et Cruz, donc il n'a pas eu une vraie majorité de voix. Et donc, qui n'a pas la majorité des délégués, tant pis, ne peut pas prétendre à se faire. Alors, lui dit, mais ça sera peut-être à 100 voix près. Si c'est à 100 voix près, il faut quand même m'élire. J'ai la pluralité. Et là, tout est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que Cruz, qui est un homme de terrain, qui est très habile, lui a compris que c'était important de choisir les bons délégués. C'est-à-dire les délégués qui, certes, au premier tour vont voter pour le gagnant, mais qui, au deuxième tour, vont voter pour lui. Et il arrive à pousser ses pions de façon très très habile. Beaucoup de délégués qui vont être sélectionnés, qui sont sélectionnés, sont favorables à Cruz en cas de, en cas de conflit.
Frédéric Carbone à Washington.
Écoutez, il y a un calcul qui a été fait, c'est il faut que Donald Trump remporte plus de 54% des délégués à répartir encore à partir des primaires qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent pour avoir les fameux 1237 qui lui assurent la majorité absolue et qui lui assurent l'acte d'être le candidat désigné. Effectivement, les autres vont se battre pied à pied. Et ensuite, ce qu'il faut voir pour ce fameux scénario rêvé de les républicains peuvent empêcher la désignation de Trump parce qu'il n'aura pas la majorité absolue, c'est que les deux tiers, voire les trois quarts des votes qui auront été faits dans ces primaires seront allés vers Trump ou vers Ted Cruz, qui sont tous les deux, de façon différente, des candidats totalement anti-establishment républicain, des candidats que voulait à tout prix éviter le Parti républicain. Voilà vers quelle alternative il va se retrouver, le Parti républicain.
Donc c'est la peste ou le choléra, hein, si je comprends bien, Denis Lacorne.
Oui,
quel est le problème de Ted Cruz maintenant, cet ultra-conservateur avec le Parti républicain?
Alors c'est un ultra-conservateur, c'est-à-dire qu'il veut abolir les impôts, par exemple, il y a un flat tax, tout le monde paye le même impôt, on supprime le ministère de l'Éducation, on essaye de tout changer, enfin de nommer des juges très très conservateurs à la Cour suprême pour remettre en cause les décisions favorisant, légitimant l'avortement. Donc il est très très conservateur, il est aussi très mal vu de ses pairs au Sénat. Personne ne lui parle, qui est en général un lieu assez convivial de discussion politique. Il s'est brouillé avec tout le monde parce qu'il est d'une énorme arrogance. Alors, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a fait Princeton, il a fait une très bonne law school à Harvard. Il a été ensuite clerk et puis auprès d'un juge de la Cour suprême. C'est une carrière superbe, si vous voulez.
Mais il est détesté.
Mais il est détesté de tout le monde pour son arrogance. Et alors, Trump essaye de le couler actuellement en utilisant par journal interposé, le National Enquirer, qui est un journal à scandale, entre Voici et Paris Match, mais plus scandaleux. Et le dernier titre de National Enquirer, c'est Les cinq maîtresses cachées de Cruise, avec des photos un peu cachées, mais la presse anglaise donne des noms aux cinq personnages. On ne voit pas ça dans la presse française, qui n'a pas les mêmes règles en matière de diffamation.
Frédéric Arbonne, ça vole haut, hein, Fred?
Oui, ça vole très haut. Ça fait quelques jours qu'il y a ce combat des épouses qui s'étale dans la presse américaine. Et Ted Cruz, vous avez déjà des gens emblématiques du Parti républicain qui peu à peu amorcent un ralliement derrière lui. Vous avez par exemple Jeb Bush, très loin idéologiquement d'un Cruz, qui dit s'il y a que ça pour s'opposer à Donald Trump, allons-y. Vous avez un autre des candidats dont on a peu parlé pendant la présidentielle qui s'appelle Lindsey Graham, qui est un faucon en termes de politique étrangère, un proche de John McCain, qui il y a quelques semaines disait si je croise Cruz dans un couloir du Sénat et qu'il se fait agresser, je serai le dernier à aller l'aider. Et ben maintenant il dit alors c'est mon 17e choix, mais je vais aller vers lui. Pour comprendre ce qui est pas un élan, mais disons on se résigne à aller vers Cruz. Écoutez, un commentateur conservateur du Parti républicain américain, il s'appelle Matt Lewis, il vient de publier un livre sur l'état de délabrement du Parti républicain, et quand on lui demande Cruz ou Trump, voilà pourquoi il répond oui, plutôt Cruz au final.
Ted Cruz est un vrai conservateur. Je pense qu'il a certainement surfé sur une vague populiste anti-establishment et qu'il a utilisé cette stratégie pour son seul profit personnel. Mais je pense aussi qu'il remplit les critères pour être un conservateur acceptable et un homme politique américain classique. Pour moi, en fait, Donald Trump est, de façon basique, un Ted Cruz gonflé aux stéroïdes.
On appréciera la comparaison. Est-ce qu'on peut dire, Denis Lacorne, que les Républicains n'ont jamais digéré la présidence Obama, c'est-à-dire la présence d'un noir à la Maison-Blanche, et qu'en parallèle, deuxième mouvement, les idées ultra conservatrices du Tea Party ont contribué à désaxer le Parti républicain?
Non, je crois que c'est très juste. C'est-à-dire que ces candidats bizarres dont on vient d'évoquer la situation, Cruz, mais aussi Rubio, mais aussi Trump, c'est pas par hasard qu'ils ont percé dans le Parti républicain. C'est un parti qui a tout fait pour appauvrir le discours et le débat politique en faisant tout pour délégitimer un président qui a finalement été non seulement élu, mais brillamment réélu, et en prétendant qu'il n'était pas légitime, qu'il n'était pas né aux États-Unis. C'est Trump déjà qui avait lancé cette histoire. Et n'oubliez pas que 60% des républicains s'imaginent que Obama est musulman. Donc c'est un parti qui a tout fait pour prétendre qu'il n'y avait rien de légitime chez Obama, que le vote de la réforme de la santé, qui a quand même été un vote majoritaire, était illégal, que toutes ces mesures prises par décret présidentiel, c'est pas scandaleux, étaient elles-mêmes illégales. Donc on a tout fait pour le dire, c'est un président illégitime et il faut tourner la page et le remplacer par un républicain. Et donc la paralysie du Congrès et un discours d'une très grande violence qui est racialisant aussi à l'égard d'Obama, tout ça a contribué à la dégradation du climat politique.
Et a engendré ces monstres-là,
oui,
alors.
Oui, et leur extrême xénophobie, certainement. Et l'un comme l'autre, donc, veulent construire un mur, chasser les sans-papiers, interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. Et on ne sait pas d'ailleurs comment c'est possible, puisqu'il faudrait identifier les gens qui viennent à la frontière. Et aux États-Unis, on peut recenser tout ce qu'on veut, la race notamment, mais pas la religion. Ça, c'est illégal. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'il y aura des questions, des questionnaires pour savoir mais qui êtes-vous? Quelle est votre religion? Pourquoi voulez-vous venir aux États-Unis? Donc, il y a des tas de choses, de problèmes qui surgissent et qui sont inquiétants. Trump lui-même a tenu des propos incohérents sur sa politique étrangère en parlant avec des entretiens au Washington Post et au New York Times. Et on se demande qui sont ces conseillers. Il y a très peu d'informations, mais les quelques conseillers dont on a les noms aujourd'hui sont des personnages très très inquiétants, islamophobes, notamment un certain Fares, un Libanais qui appartenait à des milices chrétiennes qui ont massacré beaucoup de gens au Liban. Donc Trump est entouré de gens de troisième ou de quatrième catégorie comme conseillers en politique étrangère, et les quelques noms qui ont surgi sont fort inquiétants.
Frédéric Carbone, Washington.
Oui, effectivement, les noms qui entourent Donald Trump sont inquiétants, et sa vision de la politique étrangère, ça fait quelques jours juste qu'il le précise, parce que il doit endosser un costume présidentiel.
C'est du lourd, hein, là aussi. Voilà. Hein.
Alors c'est du deal, c'est du commerce, c'est du deal. En gros, il dit par exemple le Japon et la Corée du Sud, eh bien on assure leur sécurité depuis des années.
Ils payent.
Ça leur coûte rien, ils devront payer. Mmh. Voilà, c'est comme le Mexique qui doit payer. Là, le Japon. Et puis alors si le Japon et la Corée du Sud ne veulent pas payer, alors si eux acquièrent la bombe nucléaire, ben pourquoi pas, s'ils sont obligés, qu'ils le fassent, tout en disant que la prolifération nucléaire est le pire danger sur cette planète. Donc voilà, il faudra bien qu'ils payent, et les États-Unis, c'est America first, voilà, c'est clairement, c'est pas isolationniste, c'est America first, l'intérêt américain. Il faut voir qu'il a prospéré beaucoup. Il y a la question de la race, évidemment, il y a la question raciste sous-jacente, il y a aussi la question du commerce. Le libre-échange est un postulat de base du Parti républicain et d'ailleurs de l'ensemble de la classe politique américaine depuis des décennies. Trump, il arrive, il récolte des voix dans cette fameuse ceinture de la rouille dans le Midwest américain sur il faut remettre en cause les traités commerciaux parce qu'on se fait avoir par les Chinois et les Mexicains.
Donc du protectionnisme, Denis Lacorne, dans cette espèce de palette absolument invraisemblable qu'est le Trumpisme entre mille guillemets.
Oui, mais qui est, disons, il y a une vieille tradition américaine aussi, de xénophobie, il faut pas l'oublier. Au 19e siècle, il y avait le parti des Know-Nothing qui voulait interdire les Irlandais et les catholiques. Dans les années 10-20, on a imposé les lois des quotas qui bloquaient toute immigration qui venait d'Europe centrale et d'Europe méditerranéenne. Et ensuite, prenez, par exemple, 1996, au présidentiel, vous aviez dans les candidats, bon, c'est Dole qui a été le candidat choisi par le Parti républicain, mais là, ses adversaires étaient Buchanan. Buchanan voulait créer l'Amérique forteresse avec une double barrière avec le Mexique, et il ne cessait de dénoncer l'invasion des Mexicains. Pete Wilson, qui était le gouverneur de Californie, avait imposé un référendum qui était punitif à l'égard des Latinos, qui leur interdisait l'accès. Il a gagné d'ailleurs 59% des voix. Référendum en Californie qui interdisait l'accès aux services sociaux, médicaux et aux écoles. Bon, c'était une tendance minoritaire à l'époque dans le Parti républicain, mais qui ressurgit. Donc il y a toujours eu le camp des America First, des protectionnistes, des anti-immigration, qui s'opposaient au camp des libre-échangistes et de ceux qui pensaient qu'au contraire, l'immigration est une vertu qui fait progresser l'économie américaine.
Un mot du côté démocrate, on a essentiellement parlé des républicains, mais on reparlera au long cours des démocrates. Comment voyez-vous la course Hillary Clinton, Bernie Sanders, en quelques mots?
Je crois que c'est perdu pour Sanders. Il a réussi dans quelques États, dans certains caucus, mais elle a une telle avance sur lui qu'il a pratiquement perdu les primaires. En même temps, le positif, c'est qu'elle reprend, elle reprend déjà certains des thèmes de campagne utilisés par Sanders.
Oui, c'est-à-dire qu'il colore la campagne d'Hillary Clinton.
Oui, et donc elle est beaucoup plus prudente et plus critique à l'égard de Wall Street, plus critique à l'égard des réformes qu'il faudra faire. Plus prête à accepter peut-être plus d'impôts pour les catégories les plus élevées, il y aura un impact positif. Et en même temps, la chance d'Hillary Clinton, c'est que si son adversaire est Trump, elle sera très facilement élue, parce qu'il est tellement misogyne, non seulement il est raciste, xénophobe, mais misogyne. Or, le vote des femmes, c'est 53% des électeurs aux États-Unis. Comme il est xénophobe, elle aura le vote ethnique, qui est clé, latino, le vote noir, qui concerne beaucoup des États, des swing states, des États absolument capitales pour se faire élire.
Merci Denis Lacorne, série Sciences Po, spécialiste, on l'a entendu, des États-Unis. Merci également à Frédéric Carbone, correspondant de France Inter à Washington. À suivre, le journal de l'International, mais juste avant... Ah oui, il y a un train qui arrive là. Elvis Presley. Train arrive, 16 coaches long. Train arrive, 16 coaches long. While that long black train got my baby and gone. Train, train, come
coming round, baby. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, mine, she's my all, mine.
Voilà, Mystery Train pour les fans d'Elvis et les autres.
7 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
18h42 sur Inter, on reste aux États-Unis pour le journal de l'International. Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Disparition d'un auteur devenu culte, pardon, j'ai nommé Jim Harrison.
Ah oui, sans conteste, l'un des plus grands écrivains américains de l'après-guerre, un colosse de la littérature à tous les sens du terme. Auteur de 21 ouvrages de fiction, 14 recueils de poésie, des essais, ses mémoires et même un livre pour enfants. Et pour le grand public, hein, comme pour ses amis les plus proches, Jim Harrison, c'était d'abord le romancier des grands espaces tels qu'on les voit dans l'Ouest américain. Cette nature sauvage, belle, brutale, quasi vierge d'humanité, rivières, lacs et forêts dont il avait un besoin vital depuis l'enfance, comme il le racontait lui-même en 1993 dans le superbe film documentaire de Georges Luneau et Brice Mathieu-San, Jim Harrison entre chien et loup. Écoutez.
J'ai maintenant 55 ans et je fais ça depuis 50 ans. Un demi-siècle. Je vais dans les bois depuis mon enfance. Après avoir perdu accidentellement mon œil gauche, je me suis réfugié dans le monde des fourrés. J'ai pris l'habitude de dormir à la Belle Étoile avec mon chien. Je me sens très heureux de dormir dans la forêt, surtout l'été. Et peut-être qu'un jour, je mourrai près de mon feu de camp, sous les étoiles. Ce qui est sans doute une bien meilleure façon de vivre.
Voilà, et c'est presque sous les étoiles que Jim Harrison, le borgne, est donc mort samedi soir d'une crise cardiaque chez lui à Patagonia dans l'Arizona à l'âge de 78 ans. Patagonia, aux portes du désert, où il passait la moitié de l'année, l'autre moitié dans sa ferme de l'Eglilano, tout petit village perdu dans le Montana, et qui servit d'ailleurs de cadre à l'une de ses plus célèbres nouvelles, Légende d'automne, publiée en 1979 et adaptée au cinéma 15 ans plus tard avec Brad Pitt et Anthony Hopkins, car à sa manière, Harrison, c'était aussi du très grand cinéma. Son premier succès littéraire en 71 avait été Wolf, mémoire fictive, l'épopée d'un homme traquant le loup dans les bois du Michigan, superbement interprété sur grand écran par son ami, son pote Jack Nicholson. Loup, serpent, ours, bison, truite, saumon, tout un bestiaire sauvage où se mêlent humanité, animalité. Pas facile d'ailleurs parfois de faire la différence. Écoutez ce que disait Jim Harrison à un journaliste américain venu l'interroger en 1994 sur le film Wolf et la naissance du personnage joué par Nicholson, sorte de loup-garou moderne.
L'imagination se trouve en moi. Animaux transformés en hommes, on trouve ça dans tous les mythes des Indiens d'Amérique. La morsure n'est pas obligatoire. Ça m'est arrivé sans morsure. J'ai bel et bien vu une louve. Et dans mon rêve, une voiture la percutait. Et quand je l'ai prise dans mes bras, Elle est entrée par ma bouche et m'a envahi le corps. Sa tête a pris la place de la mienne. C'était une question de survie, car à l'époque, j'étais en pleine déprime.
Voilà la déprime chronique, pour ne pas dire l'authentique dépression. Mais Jim Harrison, c'était aussi, Michael, un très 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 bon vivant.
Oh ça oui, ripailleur et gastronome, fin cuisinier, grand amateur de vin français, formidable buveur, plutôt qu'alcoolo, même s'il faut bien dire que les quantités liquides ingurgitées chaque jour était assez impressionnante. Jim avait l'enthousiasme dionysiaque et se méfiait des étriquets du gosier. Et il aimait apostropher ses amis avec cette petite phrase « As-tu remarqué que ceux qui ne trinquent jamais envisagent la vie comme un problème à résoudre ? Un buveur d'eau ne sera jamais poète », faisait-il observer, citant Horace. Et de passage en France, il ne manquait jamais de faire la tournée des Grands Ducs, du 3 étoiles au bistrot Napa Caro. Extrait d'une interview accordée à Michel Field en juin 1993 à Paris. Notre confrère lui demandait simplement si l'on mangeait vraiment beaucoup dans le Middle West. Écoutez.
C'est vrai, c'est très triste en fait, mais c'est vrai. Nous avons très peu de qualité ou d'élégance dans le Middle West, donc on mange trop parce qu'on est ennuyé. C'est pour ça que j'ai appris à cuisiner un peu plus la cuisine ou les repas français. Si je ne cuisinais pas des repas français, je pèserais 220 kilos, comme beaucoup de mes amis d'ailleurs. Mais cette semaine, j'ai mangé de la tête de veau 3 fois, donc je me sens beaucoup mieux. Je peux faire comme une vache. Mou. C'est toujours une surprise. J'aime bien les cadeaux qu'on peut sentir, qu'on peut renifler. Donc, pour moi, faire de la cuisine, c'est la pratique de la vie elle-même. Et beaucoup de gens aux États-Unis oublient qu'il faut manger 3 fois par jour de toute façon, donc ça vaut mieux de manger bien. Sinon, on perd son esprit si on ne mange pas bien. Et j'ai commencé aussi à faire de la cuisine pour ne plus pratiquer l'adultère. Vous voyez bien ce que je veux dire?
Si
on court après les jupes, bon, ça ne permet pas d'écrire. Mais si on fait de la cuisine, on est chez soi et c'est plus pacifique. C'est vrai?
And you save millions of dollars in possible divorces.
On ne dépense pas des millions de dollars pour les divorces, et on peut utiliser cet argent pour le vin et les truffes. Donc c'est plus équilibré.
Ben voilà, c'est plus équilibré.
C'est notre maître à tous.
La grande et bonne bouffe, l'ivresse, thème omniprésent dans l'œuvre d'Harrison, avec aussi bien sûr la religion, la libido, la rédemption, la vengeance et la violence. Violence constitutive de la naissance de l'Amérique. En septembre 2015, Harrison avait publié « Les péchés capitaux », 7+1, le 8e péché étant précisément, selon lui, la violence, violence envers les plus faibles, comme le vivait son personnage récurrent de Sanderson. Interview accordée pour la grande librairie sur France 5. Écoutez.
J'en ai parlé avec d'anciens flics. Ce qu'ils détestent, c'est répondre à un appel pour une histoire de femme ou d'enfant battu. Ça les rend fous. Ils se rendent sur place. La femme a le visage tuméfié tellement elle a reçu de coups. C'est terrible. Et la violence sur les enfants, c'est le pire. Certains battent leurs enfants par frustration. Sanderson n'aurait sûrement pas dû décrire toute cette violence à sa femme, parce qu'elle ne veut pas entendre ces histoires. Elle ne sait pas à quoi ressemble le monde, et elle ne veut pas le voir comme il est. Il y a une telle fracture en Amérique. La plupart des gens riches ne voient jamais de gens pauvres, sauf des bonnes et des femmes de ménage. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois ça à New York tout le temps.
Et pour fuir toute cette violence, et donc pour écrire, Nicolas, une seule solution, ce fameux bain de nature.
Tous les matins, je vais marcher avec mon chien et je me débarrasse des déchets de la civilisation. Alors, je suis prêt à écrire.
Voilà, l'homme des bois, le dur à cuire, jouisseur et le géant de la littérature, Jim Harrison.
Et rien à voir à 18h50, Michael. On part maintenant en Algérie. L'Algérie frappée de plein fouet par la chute des cours du pétrole.
Ah oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Le prix du pétrole, le prix du baril de brut, pardon, divisé par 3,5 en 7 ans. $140 en 2009, $39 aujourd'hui. Et les prix du gaz qui suivent évidemment cette courbe descendante. Alors contrairement à d'autres pays producteurs comme le Venezuela, l'Algérie, elle, possède encore de très importantes réserves de change, évaluées à près de $150 milliards, ce qui, pour l'instant, atténue les effets de la crise, en tout cas pour les finances publiques, car de nombreux Algériens, eux, commencent à en pâtir. Bonsoir Leïla Berhatou, en direct d'Alger.
Bonjour Mickaël.
Alors qui sont aujourd'hui les premiers touchés par les conséquences de la chute des cours du pétrole ?
Eh bien, les premiers, ce sont les entreprises. Parmi les mesures d'austérité, l'État a décidé de limiter les importations. Or, c'est ce qui fait vivre la majorité des entreprises aujourd'hui. C'est ce qu'explique Farid Bourenani, banquier et consultant en finance pour de grands groupes.
Toutes les entreprises qui ont axé leur activité sur la commande publique seront en difficulté et devront trouver des relais de croissance ou bien disparaître. Le taux de produits importés est élevé et par ailleurs l'État a maintenu un taux de change du dinar plus élevé qu'il ne l'était. Il y avait donc une subvention indirecte octroyée aux importations. Ben, tout cela va cesser.
Voilà, tout cela va cesser, hein, disent banquiers. Et les autorités algériennes veulent même aller plus loin en imposant des quotas d'importation pour certains produits et de très fortes taxes pour d'autres. Quel peut être l'impact pour les entreprises locales, Leïla ?
Eh bien, elles vont tout simplement devoir payer plus pour importer leurs produits. Qui dit payer plus dit vendre plus cher, au risque de perdre ses clients. C'est le dilemme de Yacine, 39 ans. Il dirige une entreprise qui transforme du saumon. Il achète son saumon en France, le transforme et le revend à des professionnels de la restauration. Yacine a un principal problème, la baisse de la valeur du dinar.
Depuis 2 ans, je commence à augmenter mes prix parce que la monnaie chute librement et il y a le marché parallèle qui flambe, qui n'arrête pas de flamber. On ne peut pas faire autrement, c'est une question de survie. Il a pris à peu près 40% d'augmentation et quand on voit la dévaluation du dinar... En ce moment, je pense que si ça continue comme ça, on ne pourra pas suivre. Nous travaillons avec des professionnels, des restaurateurs, des hôtels. Et si ça continue comme ça, je pense qu'on va directement vers une... On va baisser le rideau.
Et pour la classe moyenne, Leïla, quel est l'impact sur le quotidien ?
Premier impact, depuis le mois de janvier, l'essence est plus chère. La facture d'électricité et de gaz aussi. Certains réduisent donc leur consommation. Et c'est ce qu'a constaté Kaina, la trentaine, quand elle est allée rendre visite à ses parents.
Contrairement à l'habitude, où je trouvais tout le temps la télévision en train de tourner, seule, dans la cuisine, dans les chambres, j'avais remarqué que c'était éteint. Je lui avais dit, mais c'est bizarre, c'est nouveau chez vous que la télé ne tourne pas. Mon père nous a dit qu'il ne va pas payer ce qu'il y aura de plus. Par exemple, il a l'habitude de payer une facture, je ne sais pas, à 5000 dinars. Et s'il trouverait plus, il ne le paierait pas parce que la consommation maintenant, elle est surtaxée quand il y a une surconsommation.
Alors pour le moment, ces hausses sont minimes hein, et poussent surtout les familles à faire attention. Mais ce qui a un impact sur la classe moyenne, c'est là encore la baisse de la valeur du dinar. Kaina, elle est professeure et elle va renoncer cette année à partir en vacances à l'étranger. Pour obtenir des euros, elle doit passer par le marché noir car l'État ne l'autorise à changer que 150 € par an. Et cette année, le marché noir est beaucoup trop cher.
La valeur de la monnaie chez nous, qui est en baisse, et ça ne nous permet pas d'avoir de l'euro le plus facilement du monde comme les années précédentes, parce que ça coûte très cher cette fois-ci. Pour 100 €, il faudrait débourser 20 000 dinars. Et pour voyager déjà, pour sortir de la frontière, et vous avez un visa de 5 jours, il vous faut 500 €. 500 €, c'est 100 000 dinars. 100 000 dinars, c'est 2 à 3 fois un salaire algérien. On ne peut pas s'offrir ça. C'est pas possible, c'est très dur. Je vais laisser les vacances de côté pour une autre occasion.
Reportage à Alger, signé Leïla Berhatou et Nicolas, à demain.
À demain, Michael.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Vous revenez ce soir sur l'attentat de Lahore au Pakistan hier.
Oui, c'était pas qu'ils voulaient tuer des enfants, alors ils ont visé l'endroit du parc où se trouvaient les balançoires. Ils voulaient tuer des chrétiens aussi, alors ils ont choisi de frapper un dimanche de Pâques. C'était dans les jardins à Lahore, capitale du Pendjab, deuxième ville du Pakistan. L'éditorial du Monde s'indigne ce soir contre cet odieux attentat qui a fait plus de 72 morts et au moins 340 blessés, en majorité, Nicolas, des femmes et des enfants. Ce témoignage, lorsque l'explosion s'est produite, les flammes sont montées si haut qu'elles ont dépassé les arbres et j'ai vu des corps voler dans les airs, a raconté à Reuters un habitant qui s'était rendu dans le jardin pour se promener. L'attentat est l'œuvre des talibans pakistanais. La faction Jamaat-ul-Ahrar a revendiqué l'attentat. Citation, « Nous avons perpétré l'attentat de Lahore car les chrétiens sont notre cible », a déclaré à l'AFP par téléphone le porte-parole du mouvement.
Les chrétiens étaient spécifiquement visés, Arnaud.
C'est ce que dit la revendication. La police est plus prudente, surtout dans ce pays où l'essentiel des victimes des attentats terroristes sont musulmans. Mais selon la police, il n'y aurait que 15 victimes chrétiennes, la majorité étant musulmane. Toutefois, l'attentat n'est pas une première contre les chrétiens. En 2013, un double attentat suicide dans une église de Peshawar avait fait 82 morts. Et les attentats d'hier ont lieu dans un contexte particulier, celui de la loi sur le blasphème, qui pourrait être réformée pour mieux protéger les minorités, en particulier les hindous et les chrétiens, qui forment 1% de la population. La loi anti-blasphème, rappelons-le, promulguée en 1986 sous la dictature du général Zia, est la plus sévère au monde. Elle prévoit la mort ou la prison à vie pour quiconque est reconnu coupable d'avoir parlé de manière inconvenante de Mahomet. Et la bataille est virulente. En janvier 2011, un islamiste radical, Moutmas Quadri, a tué le gouverneur du Pendjab, favorable à la réforme de la loi, et cet islamiste a été pendu le 29 février dernier. C'est là qu'on retrouve les attentats. Ses partisans ont précisément choisi le jour de Pâques pour défiler par milliers à Islamabad. Ils réclamaient dans la rue l'application de la loi sur le blasphème et l'exécution d'une chrétienne mère de famille de 5 enfants qui est dans les couloirs de la mort. Vous voyez, Nicolas, le climat est détestable au Pakistan.
Dernière question, Arnaud, si l'on revient aux attentats, quel est le but de ce groupe ?
Eh bien, c'est très simple, renverser le gouvernement pakistanais, prendre le pouvoir, mettre la main sur les installations nucléaires du pays et propager le djihad à travers la planète. L'organisation a prévenu, elle va poursuivre ses méfaits, citation, « Nous commettrons d'autres attentats de ce type à l'avenir. Les infrastructures de l'armée, du gouvernement pakistanais, les écoles, les universités figurent aussi parmi nos cibles. » Alors, depuis 2 ans, l'armée combat une insurrection dans le nord-ouest du pays, le Waziristan, un mélange de talibans nationaux, de rescapés d'Al-Qaïda et de réseaux criminels, sans parvenir à l'éradiquer, on le voit.
Arnaud Le Parmentier.